Qu'est-ce que c'est que le mariage, tiens? Parce que je pense que la grande majorité d'entre vous, vous allez vous marier. Qu'est-ce que vous pouvez attendre du mariage? Est-ce que vous croyez que c'est une corde au cou, et puis une sorte de fatalité biologique, sociologique, qui fait que... Un jour, je rencontrais une fille, c'est l'horreur, ce genre de réaction. Une fille, bon, 23 ans, me dit « Ah, tu sais, Tanguy, j'ai trouvé le pigeon. » Je lui dis, avec mon cœur pur, qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui, j'ai trouvé le pigeon, j'ai trouvé le gars qui me donnera à manger, un bon appartement, j'aurai de l'argent, je lui ferai deux gosses pour le tenir, et puis voilà, c'est tout. L'horreur. Du moins, l'horreur au plan de l'aspiration la plus profonde. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du mariage? Parce que, vous voyez, on se marie avec quelqu'un, bon, les deux premières années passent du mariage, il y a le feu d'artifice, décor, etc. Donc, on ne voit rien. Il n'y a pas de problème, c'est formidable, etc. Et au bout d'un an, deux ans, on est acculé à quoi? À accepter que l'autre, il a plein de limites. Et dans cette rencontre de l'autre qui a plein de limites, ben, mon désir d'un amour universel, ben, il tombe, il atterrit en catastrophe. Il peut atterrir en catastrophe. Alors, qu'est-ce que va être la possibilité? Mon cœur désire un amour universel, et en même temps, dans le mariage dont les conditions sont naturelles, d'abord, je vais rencontrer l'amour de l'autre. Alors, comment faire que ce mariage puisse répondre à mon attente d'un amour universel? Qu'est-ce que c'est donc le mariage chrétien? Voilà. Le mariage chrétien, la source, c'est la dimension sacramentelle du mariage, à savoir que c'est... Voilà comment je comprends les choses. Les époux sont pas d'abord l'un avec l'autre. Les époux sont d'abord un avec Dieu. Parce que le mariage, hein, je dirais, est relatif à l'amour du Christ pour son Église. Et c'est ça que veut refléter le mariage chrétien. Entre guillemets, aux époux de puiser en Dieu, chacun de leur côté, un petit peu. Cet amour universel, pour le partager, pour en partager les fruits, l'un à l'autre. Voilà. Souvent, le mariage est compris comme le fait de, ben, je vais puiser, j'ai soif d'amour, alors, et puis, ben, c'est ça, pas terrible. Allez, je vais chercher ailleurs, et voilà. Non, le mariage, cette paix du cœur profond, on la trouve sous le regard de Dieu. Et puisant en Dieu cet amour universel, je le singularise dans le don sponsal de moi-même à l'autre. Et vous vous rendez bien compte qu'à ce moment-là, l'attitude qui porte la relation dans le couple, ce n'est pas une attitude de « donne-moi ce que je veux ». Vous voyez ? Ce n'est pas une attitude où on puise dans l'autre, parce qu'à puiser dans l'autre, on va finir par l'épuiser. Hein? Et puis, bien sûr, le castrer. Hein? Vous savez, une femme qui met tout le temps la pression sur son mari pour avoir ceci, pour avoir cela, et je fais ceci, je fais cela, la générosité du mari, il va dire, elle commence à me la chauffer, hein, celle-là. Et puis, il va y avoir un peu d'amertume, etc. Voilà. Alors, si on prend un peu d'auteur là-dedans, quelle va être la qualité de l'amour partagé? La qualité de l'amour partagé, c'est ce que dit Henri de Lubac. Vous connaissez Henri de Lubac? Henri de Lubac, c'est un très grand théologien contemporain. Il dit que dans la vie, dans l'amour, il y a une seule chose qu'il faut exiger de l'autre, c'est de ne jamais rien exiger de lui. Voilà. La qualité de la relation amoureuse ne peut jamais se faire sous un rapport d'exigence. Comme si j'exigeais de l'autre mon dû. Je me suis marié pour avoir mon sucre. Je me suis marié pour... Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non. Regardez. Et alors là, là, il y a une sorte d'articulation de grande cohérence. Hein? L'amour est universel lorsqu'il est un amour gratuit. Cet amour est gratuit lorsqu'il est imprégné de grâce. C'est donc à la mesure où les époux vivront dans un état de grâce qu'ils pourront avoir l'un par rapport à l'autre une relation sponsale, un don de l'un à l'autre, où ils se donneront l'un à l'autre parce qu'ils donneront le fruit de la grâce qui est en eux. Et à ce moment-là, ils n'attendront pas au cœur même de leur échange amoureux de l'autre quelque chose, ils l'accueilleront comme il est, parce qu'ils se donneront à lui, à elle, comme Dieu se donne à nous. Donc la mesure de l'amour, ça sera toujours l'agapé, c'est-à-dire l'amour gratuit. Et à ce moment-là, on sort de cette contradiction dans laquelle notre cœur peut être plongé tant qu'il ne se repose pas en Dieu. Donc vie consacrée ou mariage, même combat, à savoir que notre désir le plus profond, c'est de chercher l'universalité de l'amour dans la singularité de notre vie, très bien, et cela se vit sous la présence de l'amour gratuit de Dieu, l'agapé, qui va donner sens à notre Eros, qui lui veut la particularité immédiate de sa satisfaction. Un jour, j'étais à la fin de la messe, mon père, votre sermon, c'était bien, bon, très bien. Mais je ne viens pas pour ça, je vais vous présenter mon mari. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, mon mari? Ah, mon chéri. Donc il y a le mari qui arrive, il est content. 60 ans, hein? 60 ans. Et voilà ce qu'ils disent, et pour moi je trouve que c'est une phrase d'une très grande maturité, humaine d'abord. Voilà. Je vous présente mon mari. Alors, voilà mon mari. Vous savez, ce n'est peut-être pas le meilleur homme du monde, mais c'est le meilleur des maris. Regardez comme c'est beau ça. Ce n'est peut-être pas le meilleur homme du monde. Il n'a pas toutes les qualités, il remplit pas toutes mes petits désirs, mes attentes, etc. Mais c'est le meilleur des maris. Elle a accepté ses limites. Elle pose sur lui le regard que Dieu pose sur elle. Elle l'accepte comme il est et elle l'aime gratuitement. Oui, c'est ce climat de la gratuité, qui est le climat de la vérité, qui est le climat de la grâce, qui va progressivement élargir notre aspiration à la liberté, à sa vraie dimension, c'est-à-dire à la dimension de l'universel. Alors, peut-être que je peux arriver à la conclusion. Oui, l'important, ce n'est pas tant la personne que l'on va aimer, mais c'est la manière dont on va l'aimer. Oui. L'importance, on peut se marier avec beaucoup de personnes. Donc le rêve du prince charmant qui depuis toute éternité est préparé pour vous et qui un jour arrivera et fait l'entrepôt, il dira « Ah, ça y est, c'est ici, où est-ce qu'elle est ?» C'est là, il frappe à la porte avec des bouquets de fleurs. « C'est toi. Dégage. » Ah, ouais, d'accord. Ouais. Bon. Vous voyez ? Non, on est capable d'aimer beaucoup de personnes. On est capable d'aimer beaucoup de personnes. Donc, l'important, ce n'est pas tant de rêver au mariage impossible. Vous savez, dans les séminaires, il y a des filles qui tournent autour des séminaires. Les filles qui tournent, parce que elles se mettent dans des situations impossibles. Parce que généralement, les séminaristes, ce sont des bons gars, gentils, ont des bons cœurs. Et c'est, bon, très bien. Mais ils ont déjà, leur cœur est pris, hein, c'est tout. Hein. Alors que quand on rentre au séminaire, on est fiancé. Hein. Et puis on ne pique pas la fiancée d'un autre. Hein. Donc voilà. Bon. Et donc, elles se mettent dans des situations impossibles, elles tournent autour du séminaire, elles sont contentes, des belles relations d'amitié, spirituelles, etc. Le séminariste, il est très content, hein, etc. Et puis un jour, il voit qu'il se marie, du moins, il voit qu'il est ordonné, et puis il s'en va. Hein. Et elle, entre-temps, voilà. Ben voilà, elle se retrouve à 30 ans, 35 ans. Ouais, à 30 ans, les filles, elles commencent à avoir un peu la pression. Hein. C'est comme ça, hein, je suis désolé. Hein. Les garçons, ils n'ont pas la pression. Ah, je suis sûr, ils n'ont pas la pression. Hein. La pression, à 30 ans, c'est des petits coqs. Par contre, à 20 ans, c'est des petits coqs. À 20 ans, ils sont dans le poulailler. Parce que, par contre, à 20 ans, ils sont parfois un peu perdus. Un peu perdus. Là. Ils sont un peu perdus parce que les filles étant plus mûres physiquement, psychologiquement, socialement plus jeunes, et c'est un âge où les filles ont une puissance, on peut dire même sensuelle, affective beaucoup plus forte, et elles sont disponibles à donner leur cœur, etc. Donc la question c'est, ben oui, quand on est prêt pour se marier, ben il faut se marier. Hein? Donc il ne faut pas se mettre dans des situations d'amour impossibles, où on rêve d'un amour très spirituel, etc. Et puis on laisse passer les années, et à un moment, entre guillemets, l'offre et la demande, ben, ça s'inverse, hein. Bien sûr, concrètement, ça s'inverse. Le gars, il peut attendre, pas de problème. Pas de problème, à 35 ans, il n'y a pas de problème, il peut soit une petite de 25 ans, voilà, il a son travail, il est mûr, et voilà. Il a passé la phase difficile d'intérioriser sa sexualité, la phase difficile de se lancer dans la vie professionnelle, parce que c'est très important pour un garçon, d'avoir un travail, etc. Et dès qu'il a ces deux choses qui sont à peu près stabilisées, il est prêt pour se marier. Voilà. Et c'est toujours un petit peu plus long chez les garçons. Voilà. Donc, ne pas se mettre dans des situations d'amour impossible. Voilà. Entre guillemets, de rêver un amour qui soit un amour parfait, immédiat, humain, non. Je dis, l'amour, hein, le but, c'est pas de trouver l'homme parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La femme parfaite, ça n'existe pas. À part la Vierge Marie. Voilà. Vous pouvez consacrer votre cœur à la Vierge Marie, hein, et au cœur de Jésus, ça c'est très très bien ça. Hein. Mais dans la vie concrète, à un moment il faut s'engager. Hein. On peut spiritualiser sa vie, mais en même temps après il faut la vivre. Hein. Et donc voilà, on est quand même invité à comprendre le vrai axe de comment notre vie, on va poser des choix. Hein. Faut les poser sous le regard de Dieu. Car seul Dieu nourrit profondément le cœur. Voilà. Voilà. Un doudou, un mari, tout ça, ça va nourrir, ça va être une aide, comme dit la parole de Dieu. C'est une aide. Mais une aide à quoi? À se mettre sous le regard de Dieu. Vous savez, parce que, entre guillemets, votre mari, bon, vous mariez, et 2 ans après, accident de voiture, culjat, jambe coupée, paralysé du bras droit. Est-ce que c'est toujours votre mari? Ben oui, c'est toujours votre mari. Et si vous êtes marié à l'église, vous êtes marié pour toute la vie avec lui. Donc il va falloir trouver avec quelqu'un qui est culjat et qui est handicapé du bras droit, la capacité de vivre un amour qui soit l'amour de votre vie. Ça va jusque-là, hein? C'est l'amour qui traverse la croix. Voilà. Et donc le véritable amour, ce sera l'amour qui traversera la croix. Et comme cela a bien été évoqué, est vraiment libre que celui qui est fidèle à ses engagements au cœur même de la croix. C'est-à-dire que ce qui ne devait pas arriver, arrive. Vous voyez? Un autre exemple, je dirais, concret. À nouveau, un beau couple parisien, très très engagé dans une vie associative de laïcs, responsable des laïcs d'une communauté, je ne dirais pas le nom, pour ne pas que vous fassiez des liens. Très très bien. Et voilà ce qui arrive. Et ce qui arrive, 50 ans, un couple très généreux, qui accueille voilà, une mère célibataire avec enfant, etc. On met ça dans un petit endroit, la propriété, etc. Et bien sûr, le mari... Ben, il tombe amoureux de la fille. Elle a su mêler les problèmes sociaux avec des problèmes de cœur, etc. Voilà. Et il tombe amoureux. Et voilà ce que dit l'épouse. L'épouse dit, mon chéri, je vois bien le manège, je vais te dire deux choses. Très bien. Moi, je ne te mets pas à la porte. Deuxièmement, je ne dirai rien pour que tu perdes la face devant les enfants. Donc, je ne te mettrai pas en faux devant les enfants. Troisièmement, tu peux venir dormir dans mon lit quand tu veux. Bah, je dirais, il faut avoir de l'audace de dire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle a pris sur elle la croix. Très bien. Et elle a pris le temps. Le mari, il faisait ses allers-retours. Il allait chez cette femme de passage. Il revenait, allers-retours, pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il est rentré à la maison. Il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon à sa femme, qui l'a béni, qui a prié pour elle, et pour lui, puis qui a dit, voilà, je te demande pardon. Le pardon a tout scellé. Ils sont repartis et leur amour a été encore plus beau après. Un amour pardonné est un amour qui est encore plus beau. Donc ça va être au cœur même de la croix et donc de l'infidélité, qui prend des formes très variées, l'infidélité. L'infidélité à l'amour authentique auquel on aspire. Et ben voilà, ce couple est reparti. Le pardon a été inséré au cœur de la culture familiale. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que peuvent apporter les parents? Hein, d'avoir inséré cette dimension-là au cœur d'une culture familiale. Et c'est une famille qui a grandi, dans la croix, mais dans le véritable amour. Donc tout ça pour dire que nos vrais désirs, si on veut être vraiment libre, voilà, il faut que notre vrai désir soit un vrai désir, sous le regard de l'amour de Dieu, qu'on discerne vraiment que c'est un bien, on va y revenir, parce qu'il y a des biens qui sont vraiment des biens, et puis il y a des biens qui ne sont pas des biens. Hein. Qu'on fasse des choix qui impliquent une adhésion profonde, un renoncement. On pose des actes concrets. Et peut-être l'acte ultime concret de l'amour, c'est le pardon. Pensons au pardon du Christ sur la croix, qui meurt le jour du grand pardon, hein, le Yom Kippour. Hein. Et ensuite, bien sûr, la joie, c'est la vie dans l'esprit. Hein. C'est la vie avec l'Esprit Saint. Alors la confiance, ça va être le lieu personnel qui va m'aider à poser de manière personnelle de tels actes. Personne d'autre ne peut les poser à ma place. Personne d'autre. Donc je n'ai pas à attendre d'être pris en charge par un tiers qui doit me dire ce que je dois faire, comment je dois faire. Maman, est-ce qu'il faut que je l'épouse? Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ah, je l'aime, est-ce qu'il faut que je l'épouse? Non, c'est vous-même qui prenez la responsabilité de votre vie en tant qu'elle éclairée. Voilà. C'est vous qui posez des choix éclairés, prenez le temps de discerner les choix fondamentaux et après, engagez-vous, qu'il disait. Voilà. Engagez-vous dans la vie de la vraie liberté qui prend les risques de l'amour authentique et universel.